Pendant toute la durée de ce Vendée Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça.
Louis Burton, on voit qu'il arrive à atteindre des vitesses élevées quasiment constamment. Il utilise son bateau à 100% de son potentiel, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Charlie Dalin aujourd'hui.
C'est toute la richesse de ce Vendée Globe, cette incertitude.
Il est possible que jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe, ça revienne encore un petit peu par derrière pour des outsiders comme Boris Herman. Donc vraiment, rien n'est joué.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e épisode du Club VG20, un 11e épisode forcément un peu spécial et à double titre. D'abord bien sûr parce qu'on est maintenant à quelques jours, quelques heures du dénouement de ce Vendée Globe, et deuxièmement parce que le club ouvre ses portes cette semaine à un guest. Chaque week-end on accueille des navigateurs et des passionnés qui suivent la course de très près. Là on a la chance d'avoir avec nous un marin qui participait à ce Vendée Globe, c'est Sébastien Simon, le skipper de Arkéa Paprec. Salut Sébastien.
Bonjour.
Et bienvenue au club, t'es un habitué des podcasts Cap VG20, on t'a déjà entendu à plusieurs reprises il y a quelques mois dans d'autres formats, et je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le club pour débriefer cette semaine de course et forcément se projeter sur ce sprint final à suspense. Pour t'accompagner, quelqu'un que tu connais, Seb, c'est Paul Bessereau. Salut Paul.
Salut Alexis, salut Seb.
Et bienvenue au club à toi également, Paul, qui est le fondateur de l'agence digitale Optimist, qui gère les réseaux sociaux de pas mal de projets de course au large, dont celui de Sébastien, dont celui de Damien Seguin qui est encore en course. Ça c'est en collaboration avec l'agence Éphémère, qu'on salue au passage. Et puis tu t'occupes aussi de la partie digitale de la classe IMOCA. Tu suivais aussi le trophée Jules Verne de Gitana. Malheureusement, on a appris que la tentative de record de l'équipage de Franck Camas et Charles Caudrelier était arrêtée. T'es déjà aussi un peu tourné vers la Transat Jacques Vabre. Bref, t'es très occupé, hein, je crois, Paul. Et les jours qui viennent, avec ce suspense infernal sur le Vendée Globe, ne devraient rien arranger.
C'est clair que ce suspense de fou là, de fin de Vendée est incroyable. Là. Moi, je sais que depuis que je suis le Vendée, j'ai jamais vu un finish aussi incertain. Et c'est ce qui est intéressant dans ce Vendée, c'est que il y a une sacrée incertitude du résultat. Et ça, dans le sport, c'est quand même la chose qui suscite, il me semble, le plus d'intérêt, que ce soit auprès des médias ou des passionnés d'une discipline. Et donc, ouais, je trouve ça vraiment dingo, complètement dingo.
Vendée Globe d'ores et déjà historique. Sébastien, on va en profiter aussi pour prendre des nouvelles. Je rappelle juste que ta course, toi, s'est malheureusement arrêtée à Cape Town au début du mois de décembre. Tu es rentré en France depuis un peu plus d'un mois. Comment ça va et qu'est-ce que tu as fait depuis un mois ?
Oh, ça va plutôt bien, hein. Voilà, le bateau devrait arriver très prochainement à Port-la-Forêt, donc moi j'ai hâte de le revoir. Il aura fait une traversée de l'Atlantique sur cargo cette fois, donc c'est un petit peu différent. En tout cas, voilà, je continue de suivre le Vendée Globe, notamment pour Benjamin Dutreux, qui est mon meilleur ami. Et voilà, sinon moi j'ai continué à essayer de travailler pour essayer de planifier le chantier d'hiver, parce que Dieu sait qu'on aura beaucoup de travail sur le bateau Arkéa Paprec cet hiver pour le remettre en état. Et j'essaie de travailler au mieux aux côtés de mes partenaires pour préparer la suite en espérant être présent au Vendée Globe 2024.
Donc tu le disais, le bateau va retrouver son port d'attache à Port-la-Forêt dans quelques jours. Il est arrivé depuis une dizaine de jours, je crois, à Rotterdam. Concrètement, le chantier, ça va nous emmener jusqu'à quand ?
Ça va probablement nous amener jusqu'au mois d'avril. J'espère pouvoir mettre à l'eau le bateau au mois d'avril. En tout cas, évidemment, ça paraît long comme ça, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire dessus parce qu'il y a forcément pas mal de travaux composites, mais il y a forcément d'autres choses, hein. J'ai subi quelques soucis d'électronique et autres, et puis il y a toute la remise en état global du bateau. Donc tout ça prend un petit peu de temps, il faut qu'on s'organise, et puis voilà, enfin, je pense qu'on va essayer de faire les choses correctement, quitte à ne pas faire d'autres chantiers pendant l'été. En tout cas, on va essayer de naviguer le plus possible et remettre le bateau à l'eau le plus rapidement possible.
En attendant, tu le disais, j'imagine que tu as malgré tout un œil sur ce qui se passe du côté du Vendée Globe, notamment pour suivre Benjamin Dutreux, tu le disais. Comment tu vis ça et est-ce que tu as réussi à prendre un peu de recul ? Parce qu'on sait qu'évidemment, il y a une grande frustration dans un premier temps. T'en es où aujourd'hui, un peu plus d'un mois après ton retour en France ?
Honnêtement, j'ai hâte que ce Vendée Globe se termine. Voilà, enfin, ça me paraît assez logique, et même pour Benjamin, voilà, je pense que ce sera une sacrée satisfaction pour lui. Il aura fait une course magnifique. Mais moi, non, ça va plutôt bien, comme je disais. Je suis plutôt positif pour la suite et surtout, je me rends bien compte que j'ai eu la chance de vivre ce morceau d'aventure, ce morceau de rêve. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai appris beaucoup en termes d'expérience aussi. Maintenant, je vois les choses un petit peu différemment. Je vois ma future préparation autrement. Donc moi, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de retourner sur l'eau. Voilà, le Vendée Globe, malheureusement, il s'est arrêté prématurément, mais voilà, c'est comme ça, c'est arrivé à d'autres avant, ça arrivera à d'autres après, et peut-être qu'en 2024, la chance sera avec moi. En tout cas, je pense qu'il suffit des fois de pas grand-chose pour remporter un Vendée Globe ou terminer un Vendée Globe. Et voilà, j'ose croire que la prochaine fois sera la bonne.
Les présentations sont faites, on va pouvoir maintenant planter le décor de ce podcast quasiment exclusivement consacré à ce qui se passe en tête, vous l'imaginez bien. On n'oublie pas évidemment la deuxième moitié de la flotte, mais on aura encore quelques semaines pour en parler, puisque le club se poursuivra jusqu'au bout de ce Vendée. Alors donc, en tête de flotte, on s'était laissé la semaine dernière à la bord du Poteau Noir, les leaders l'ont passé dimanche, lundi, sans être particulièrement ralenti, du moins ça n'a pas complètement redistribué les cartes, puis progression vers le nord jusqu'à toucher une dorsale et l'arrivée dans l'anticyclone des Açores. Bref, j'ai presque envie de dire que cette semaine, on a assisté à une sorte de statu quo. Un seul bord, pas vraiment d'options particulières, si ce n'est les confirmations de celles qui étaient engagées déjà auparavant, comme celle de Louis Burton notamment. Pas de véritable changement donc au niveau des positions. On a toujours, et là je parle en fonction du pointage de ce samedi 18h, évidemment, on a toujours deux têtes de gondole, Charlie Dalin et Louis Burton. Autre particularité d'ailleurs cette semaine, on a eu un classement un peu biaisé puisqu'il est calculé en fonction de la distance au but. Donc plus on était à l'est et mieux on était classé, ce qui a fait que Burton pouvait être officiellement parfois cinquième alors qu'il était, semble-t-il, le mieux placé. Burton avec son option ouest donc, on va dire qu'il a été le leader de la carto. Dalin, lui, a été plutôt le leader du classement officiel. Juste derrière, en très sérieuse embuscade, on a Boris Herman et puis encore quelques autres qui vont jouer jusqu'au bout pour une place sur le podium au moins. Ruyant, Bestaven, voire Pédoté et Seguin. Bon, messieurs, on va prendre tous ces cas particuliers un à un, et on va commencer évidemment par le duel principal entre Charlie Dalin et Louis Burton. Lequel des deux, là, ce soir, ce samedi soir, vous semble le mieux placé dans tous les sens du terme, Seb?
Ouais, c'est assez difficile. Voilà, là, ils sont en train de contourner l'anticyclone des Açores et ils essaient de rattraper le train des dépressions hivernales qu'on rencontre, nous, en ce moment. Je dirais que Louis Burton a un placement très intéressant parce que en fait il subira moins la donnante en tribord à mur que subit Charlie Dalin avec l'anticyclone des Açores. Voilà, c'est un petit peu particulier. Charlie Dalin sera probablement amené à empanner dans les prochaines heures, je sais pas quand. En tout cas, les vitesses restent assez élevées, donc pour l'instant rien n'est joué. Et je pense que, en tout cas, c'est pas cet anticyclone des Açores qui sera décisif pour le classement. Donc aujourd'hui, c'est encore un petit peu dur de se prononcer.
Tu le disais, l'option de Louis Burton, tout au long de ce Tour du Monde d'ailleurs, il a pris des options un peu plus engagées que les autres, un peu différentes. En tant que navigateur, là, ta fibre de marin, ça t'intéresse là, ces choix un peu différents faits par un de tes collègues?
Oui, ben on voit bien que Charlie Dalin favorise plutôt les trajectoires assez tendues, assez directes. Voilà, c'est un figariste, un peu comme moi. Je pense que j'aurais adopté un peu le même style de navigation. Louis Burton, c'est vrai qu'il ose essayer d'aller chercher un peu plus à l'extérieur du parcours. Par moments, ça lui a plutôt souri. Donc voilà, en tout cas, il navigue bien. Mais ce qui me frappe surtout, c'est le fait qu'il utilise son bateau à 100% de son potentiel, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Charlie Dalin aujourd'hui. Et voilà pour moi où est la grande différence. C'est que Louis Burton, on voit qu'il arrive à atteindre des vitesses élevées quasiment constamment, ce qui n'est pas le cas de Charlie Dalin. Et ça, pour moi, ça fait une vraie différence.
Paul, quel regard tu portes sur ce duel là entre Charlie et Louis?
Non, bah c'est sûr que ce duel est hyper impressionnant. Charlie, c'est vrai qu'il est un peu plus sud que Louis, qui prend des choix un peu plus guerriers entre guillemets. Hein. Il a un peu plus, il touche un peu plus de vent. Il a forcément une mer un peu plus forte du coup. Depuis, bon, il a rencontré pas mal de soucis depuis le début. Hein. Si on rappelle carrément le 8 novembre, hein, faux départ. Il a 5 heures de pénalité. Le 12 novembre, il a une fuite de son système hydraulique. Le 5 décembre, panne de pilote automatique. Le 15 décembre, rail de grand voile cassé. Et puis après, il s'arrête à Macari, il répare. Enfin, on a l'impression que chaque problème le rend plus fort. Et je pense que pour le duel de... Enfin, le duel, c'est pas un duel, parce qu'on c'est assez incertain comme finish, mais je pense que ça se jouera pas mal au mental, et à cette heure-là, je pense qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer.
Moins de 100 000 derrière ce duo, il y a aussi Boris Herrmann, qui ressemble désormais à l'outsider un peu parfait. Alors, peut-être pas pour couper la ligne en premier, mais... Puisqu'il a 6 heures de bonus, il pourrait très bien se retrouver juste derrière et profiter de sa bonification pour passer a posteriori devant tout le monde. 100 000 de retard, 6 heures de bonus, c'est une équation qui semble assez crédible si on en reste là. C'est ça aussi d'ailleurs qui va nous assurer un suspense de dingue jusqu'au bout. Je vous laisse juste imaginer ce scénario par exemple où Burton ou Dalin passerait en tête mercredi, admettons à 6 heures du matin, avec un Boris Herrmann qui arriverait juste derrière, il aurait jusqu'à midi pour couper la ligne, ça va être des heures de suspense complètement incroyables. Sébastien, est-ce que tu dirais que, au vu de tous ces paramètres, Boris est peut-être finalement le mieux placé? Et surtout, comment toi, à sa place, tu gérerais ce bonus-là de 6 heures dans les derniers jours de course?
Moi, à sa place, c'est sûr que je profiterais de ce bonus pour attaquer le maximum, hein, et pas me laisser distancer par les leaders. Je sais que Boris, et pour avoir passé pas mal de temps à ses côtés pendant le Vendée Globe et pour avoir pas mal discuté avec lui par message, il était vraiment dans l'optique de terminer ce Vendée Globe et il était plutôt hyper prudent. Quitte vraiment à ralentir son bateau, ce qu'il ne faisait pas pendant les avant-saisons. Il avait plutôt tendance à exploiter son bateau, même parfois un peu au-delà de son potentiel. Là, pour ce Vendée Globe, j'ai vraiment l'impression qu'il a changé d'attitude. Et effectivement, les conditions météo ont fait que... Alors, on parlait de Louis Burton qui a perdu 6 heures, 7 heures en réparant. En fait, les conditions météo ont fait que de toute façon, l'élastique s'est tout le temps desserré et c'est toujours revenu par derrière. Donc finalement, toute l'avance qui a pu être prise avant n'a servi à pas grand-chose. Donc là, maintenant, pour Boris, il est temps d'essayer de raccrocher le train au maximum. Et surtout, les conditions météo jusqu'à l'arrivée, du peu que j'en ai regardé, c'est que... Ben, elles vont dépendre du passage des trains dépressionnaires, c'est-à-dire que à partir du moment où les dépressions arrivent par derrière, si on se fait pas sortir du jeu, eh ben il est possible que jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe, ça revienne encore un petit peu par derrière pour des outsiders comme Boris Herrmann. Donc vraiment rien n'est joué.
Mais est-ce que stratégiquement, il a vraiment besoin de prendre le risque de passer en premier, ou plutôt le meilleur plan pour lui c'est de rester dans le sillage de Charlie Dalin en assurant un peu en gérant l'écart, en sachant qu'il a donc ses 6 heures de matelas?
Ah oui, effectivement, il faut qu'il gère son avance. Voilà, pour l'instant il n'a pas d'avance. Charlie Dalin est encore devant virtuellement, donc voilà, pour l'instant c'est pas fait, mais c'est sûr que Boris, il faut juste qu'il accroche le sillage de Charlie et de Louis Burton. Ça se joue à pas grand chose, et puis ensuite il faut qu'il contrôle ça, mais bon, c'est déjà pas si simple à faire, hein.
Boris Herrmann, qui est le premier Allemand à participer au Vendée Globe et qui pourrait, on le rappelle, devenir le premier étranger à gagner la course, et donc Boris Herrmann, Paul, qui pourrait gagner la course sans avoir été une seule fois leader, ce qui serait quand même assez dingue, mais j'ai envie de te dire que ça serait à l'image de tout ce Vendée Globe.
Oui, t'as raison, c'est vrai, j'ai regardé les statistiques tout à l'heure, j'ai travaillé un petit peu du coup sur le Vendée Globe. Et oui, c'est vrai qu'il n'a pas été en tête une seule fois du Vendée, c'est assez incroyable.
Et il pourrait continuer comme ça et ne jamais l'être, et terminer deuxième, troisième, quatrième, mais...
C'est toute la richesse de ce Vendée Globe, cette incertitude.
Et le quatrième client qui est pas très loin derrière, c'est Thomas Ruyant. Alors il a peut-être un petit peu lâché pour la gagne, il l'a un peu reconnu lui-même en milieu de semaine. En revanche, là, ce samedi, on a compris qu'il allait se battre jusqu'au bout, au moins pour un podium, puisque la dernière séquence, ça va jouer, Sébastien le disait, à coup d'empannage. Donc il aura forcément, a priori, la moitié du chemin à faire sur son foil qui n'est pas endommagé. Un peu dans le même cas, il y en a aussi un autre, Yannick Bestaven, encore un petit peu derrière. En début de semaine, il n'avait pas du tout le moral, Yannick Bestaven, il a même révélé qu'il avait eu des problèmes de voile depuis un peu plus de 2 semaines, notamment des voiles de petit temps, ce qui l'impactait pas mal dans le poteau noir. Et puis pareil, là, quelques jours après, il est revenu dans le match, il a de nouveau le couteau entre les dents, prêt à aller chercher un podium. Est-ce que ces deux-là, ou en tout cas un de ces deux-là, peut faire la différence là dans les derniers jours, en rappelant que Yannick Bestaven, lui aussi, il aura ce bonus de 10h15 qui lui sera crédité à l'arrivée?
Je pense que Thomas Ruyant, il peut faire un podium, hein, sans problème, j'y crois vraiment. Par contre, Yannick Bestaven, pour moi, il peut encore jouer la gagne. Enfin, bon, réellement, il peut se passer pas mal de choses. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent de nord-est qui s'établisse sur nos côtes ouest, bretonnes et vendéennes, et qu'une dépression avec du vent de sud-ouest arrive par l'arrière et fasse revenir toute la flotte d'outsiders vers les leaders. Enfin, pour moi, les scénarios sont pas du tout terminés. Donc il faut y croire jusqu'au bout, même pour Yannick Bestaven qui a subi quelques soucis techniques. Bon, pas plus que les autres, pas moins que les autres. Voilà, ça lui arrive à ce moment-là. Mais pour moi, c'est vraiment pas terminé. Hein. Je pense qu'il va encore se passer pas mal de choses.
Eh oui, 10h15 de bonus, quand on nous annonce 5 arrivées dans la même journée, évidemment, ça peut encore jouer pour Yannick Bestaven. Un peu plus loin encore, quand on dit un peu plus loin, c'est pas très loin, hein, parce que ça sera grosso modo 24 heures peut-être après l'arrivée des premiers, pas beaucoup plus. On a Giancarlo Pedotti sur un foiler a priori en bon état, et Damien Seguin, qui est celui qui a la trajectoire la plus intérieure là, de tout le paquet. Paul, Damien Seguin, il sera, sauf... Grosse surprise, pas le vainqueur sportif de ce Vendée Globe. En revanche, il aura vraiment gagné plein d'autres choses là depuis 3 mois.
Ah bah, je crois que Damien, il a été incroyable. Hein. Pour moi, Damien, si tu veux, il incarne 3 valeurs, la persévérance, l'inclusion et la confiance en soi. Il y a quelques années, il voulait faire de la voile avec les régatiers valides. C'était compliqué, il s'est battu pour y arriver. Il a obtenu depuis 2 médailles d'or aux Jeux Paralympiques, 5 titres mondiaux, il me semble. Et puis aujourd'hui, bah voilà, il est en train de boucler un Vendée Globe, ce qui me paraît déjà être une course assez surhumaine. Et puis lui, il lui manque une main. Et puis, comme si de rien n'était, il participe à ce Vendée Globe avec une réussite exemplaire. Parce que si, on peut le rappeler, mais s'il y avait 2 catégories de bateaux, hein, les foilers et les non-foilers, il est quand même en tête de la course des non-foilers.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il va pas seulement boucler le Vendée Globe, il va le boucler magnifiquement.
Il va le boucler magnifiquement et en plus, il est très content. Il est devant Jean Le Cam. Et ça, pour lui, je pense que c'est encore un petit plus.
Il est devant Jean Le Cam, qui est donc en 8e position, mais qui aura, lui, 16h15 de bonification à l'arrivée. Il faudra les compter aussi. Et il est aussi juste devant le padawan de Jean Le Cam, Benjamin Dutreux. Je vais évidemment me tourner vers son pote, Sébastien Simon. Dutreux, comme tu l'appelles, il va probablement terminer 9e du Vendée Globe. Quand on s'est vus tous les trois au mois de juillet dernier, on a enregistré un long podcast ensemble, que vous pouvez toujours retrouver d'ailleurs, qui s'appelle « Une histoire de copain ». À ce moment-là, Benjamin galérait encore à trouver un sponsor. Et alors moi, je reconnais bien volontiers que je ne le voyais pas du tout réaliser le Vendée Globe admirable là qu'il vient de réaliser. Est-ce que quelque part, Seb, toi aussi, il t'a épaté et notre camarade vendéen?
Ouais, il m'a clairement épaté. C'est sûr que voilà, il a vécu des moments difficiles. Il a acheté un bateau au Japon qu'il est allé chercher lui-même, un bateau qui n'avait pas de mât. Il a construit avec son équipe un mât, tout ça pour être au départ de la Transat Jacques Vabre. Il a embauché une grande partie de ses amis très proches pour gérer son projet et l'aider pour faire ce Vendée Globe. Il a financé personnellement ce bateau. Il avait des partenaires qu'il a fini par perdre à cause de cette crise sanitaire. Finalement, au dernier moment, il a retrouvé un partenaire qui lui a permis de trouver un nom pour son bateau et de s'aligner au départ de cette course du Vendée Globe. Tout ça en s'entraînant très peu. Tout ça, et là pour le coup, c'est le seul à ne pas avoir upgradé son bateau, parce que c'est un vieux bateau à dérive et tous les deux on l'appelle le vieux taxi. Ça nous fait assez rire, mais clairement, parmi les bateaux qui sont là autour de lui, c'est vraiment le bateau le moins performant de la flotte. C'est sûr que là, dans les Alizés, on l'a bien vu, ça a été un petit peu plus dur pour lui et ça a été forcément un petit peu frustrant pour lui, mais il a bien conscience qu'il réalise une course magnifique et voilà, avec le peu de moyens, le peu d'entraînement qu'il a eu et le peu d'expérience aussi, c'est son premier Vendée Globe. Je trouve qu'il fait une course vraiment admirable.
Le vieux taxi qui est bord à bord avec donc la 4L de Jean Le Cam. T'es en contact avec lui, j'imagine, vous échangez lui en mer, toi à terre régulièrement?
Alors elle est tuning, hein, la 4L de Jean Le Cam quand même. Oui, on échange tous les jours via WhatsApp, on s'envoie des messages et tout. Forcément, par moment, il me fait part de sa frustration parce qu'il aimerait aller plus vite, parce que voilà, il a forcément une âme de compétiteur. Mais en tout cas, j'essaie de l'apaiser autant que possible Et des fois, je lui fais prendre conscience qu'il a de la chance de faire ça et d'aller au bout de ce Vendée Globe et qu'il est en train de réaliser une course incroyable. Donc, voilà, enfin, en tout cas, tout le monde sait et tout le monde lui dit qu'on est hyper fier de lui. Et ça, je pense qu'il méritera une fête magnifique à son arrivée.
Et j'imagine que t'en seras. Pour être très complet, il y a deux autres bateaux qui sont attendus au sable d'ici le prochain épisode, ceux de Maxime Sorel et d'Armel Tripon, avec d'ailleurs une belle bataille là, à suivre entre les deux pour la 10e place, c'est pas complètement anodin. Maxime qui a bien senti là ces derniers jours que la menace allait être très très forte sur sa position jusqu'au bout, et Armel, lui, a confirmé qu'il faisait un tour du monde hyper rapide, il a réalisé le meilleur temps en attendant peut-être Jérémy Veilloux sur le segment Équateur-Équateur. On a évoqué là toutes les forces en présence à l'avant de la flotte. Juste pour terminer, Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, simplement, dans quel contexte météo cet emballage final va se jouer là en tout début de semaine ?
Ben, j'ai regardé très brièvement, mais à partir du 27, pour l'arrivée des premiers, il y a un front avec y a un front qui devrait arriver, donc il devrait prendre du vent de sud-ouest, qui devrait tourner ensuite nord-ouest. Voilà, donc je pense que c'est un peu le timing de l'arrivée de cette dépression qui va définir le classement et qui va un peu sceller les écarts entre les bateaux.
Soit on prend le train, soit on attend le suivant, en gros, c'est ça ?
Ben oui, voilà. Enfin, le train, il arrive quand même par derrière. J'ai un peu le sentiment que ça va quand même revenir par derrière. Donc aller trop vite, c'est bien, il faut de toute façon tenter d'aller le plus vite possible, mais si le train prend du retard, eh ben, ça va forcément revenir par derrière, mais c'est ce qui promet d'être une fin de course assez magique quand même. Enfin, on n'a jamais vu ça dans un Vendée Globe, en tout cas pas à ma connaissance.
Ah non, à la connaissance de personne, on n'a jamais vu ça. Juste pour récapituler de manière très précise, les ETA dont on dispose à l'heure actuelle, toujours au moment où on se parle, donc c'est-à-dire samedi soir, ce serait donc mercredi 27 janvier pour les 6 premiers, c'est-à-dire Dalin, Burton, Herman, Ruyant, Bestaven et Pédoté. Jeudi 28 janvier, on attend Seguin et Le Cam. Plutôt vendredi 29 en début de journée pour Dutreux, ça fera un joli tir groupé là pour les 3 bateaux à dérive dont on parlait. Et enfin, samedi 30 pour Sorel et Tripon, des arrivées qui se dérouleront, on le sait, dans un contexte très très particulier. Le protocole sanitaire a été annoncé et officialisé cette semaine. Ce sera finalement assez proche et malheureusement de celui du départ. Huis clos total, aucun spectateur et dispositif très strict, peut-être plus encore d'ailleurs qu'au départ pour les médias, les teams, l'organisation, tous ceux qui seront accrédités, qui auront la chance d'être accrédités, avec notamment un test PCR à renouveler toutes les semaines. Paul, c'est bon, t'as pris ton rendez-vous pour le test PCR ?
Eh oui, bah oui, hein, ça, on commence à être habitué avec les tests PCR. Je crois que j'en suis à une quinzaine là, depuis le début du Vendée Globe. Entre le trophée Jules Verne et le Vendée Globe, ouais, ça doit être à peu près une quinzaine de tests PCR. C'est pas rien. Je commence à être.
Tu sens plus rien quand on te le fait ?
Bah non, je sens plus rien du tout.
Bon, et puis évidemment, dans tout ça, on pense surtout aux skippers hein, qui n'auront pas la chance de connaître ni au départ ni à l'arrivée la ferveur du cheval. Il faudra revenir dans 4 ans pour ça. Et puis, ils vont aussi découvrir ce qui se passe à terre, retomber brutalement dans tout ça, alors qu'ils sont très loin de ces problématiques depuis 11 semaines maintenant. D'ailleurs, Seb, tu peux peut-être nous raconter comment toi tu l'as vécu, ton retour à terre, en Afrique du Sud d'abord, puis en France à la mi-décembre. Et puis, tu as peut-être aussi le point de vue de Benjamin, si tu es en contact avec lui.
Mon retour à terre, ça s'est passé, l'Afrique du Sud, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Enfin, je dirais même que la vie était plutôt normale. Tout le monde était masqué, évidemment. Et j'ai été étonné de voir que dans un pays comme celui de l'Afrique du Sud, les protocoles sanitaires sont très bien respectés, non seulement de la part des commerçants, de la part des gens en général. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place et c'est très bien respecté. Par contre, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts. Voilà, ce qui change réellement de chez nous, où quand je suis rentré, en fait, tout était fermé. Donc, oui. C'est sûr que ça nous enlève une bonne partie de notre vie sociale. C'est très particulier. Je pense que quand on est en mer, en fait, on oublie un petit peu tout ça et on s'en rend pas tout à fait compte. J'espère pour l'arrivée des premiers qu'on ne retournera pas dans un confinement parce que ça va leur faire tout drôle de se retrouver confinés dans un bateau puis confinés chez eux. Ça risque d'être un petit peu triste quand même.
On a entendu Jean Le Cam cette semaine commencer à en parler, Giancarlo Pedotti il y a quelques jours aussi. Enfin, on imagine là qu'à 4-5 jours de l'arrivée maintenant, ils savent hein, ce qui se passe à terre, donc ils commencent à cogiter un petit peu. T'as pas du tout eu l'occasion d'en discuter avec Benjamin pour le moment?
Si, il m'a demandé si je voulais être là à son arrivée. Je lui ai dit bien sûr, et il m'a dit Il m'a dit que c'était très dur pour lui de devoir choisir entre ses amis qui devaient être présents et ceux qui ne pourraient pas être présents. Ouais. Parce que voilà, je ne sais plus à combien on est limité par arriver par bateau, mais je crois que c'est très peu. Et je comprends qu'après l'aventure qu'il a vécue, finalement, il aura le même public que lors d'une arrivée d'une transat, quoi. Ou d'une sortie de 3 jours en mer. C'est un peu, ouais, c'est vraiment dommage parce que, plus je pense que ce genre d'émotion, on le vit qu'une seule fois dans sa vie. On le vit que pour un premier Vendée Globe ou une première arrivée. Après, c'est jamais la même chose. Donc, ouais, c'est dommage. La fête est un petit peu gâchée quand même.
Bon, on a été très complet sur tous les enjeux sportifs de ces tout derniers jours de course. On détaillera vos pronostics dans quelques instants, évidemment, c'est la tradition en fin de podcast. Mais l'autre tradition, c'est aussi d'écouter les meilleurs extraits du bord de la semaine. Ils sont là, et aujourd'hui, on parle de nourriture, avec Damien Seguin, qui malheureusement doit se rationner pour ses derniers jours en mer, Clarisse Kremer, qui est arrivée au bout de son stock de son fruit préféré, en revanche, Sam Davies, qui n'est plus en course, mais qu'on n'oublie pas, elle a trouvé de quoi se régaler dans le Grand Sud.
Bon ben, ce matin, j'ai eu la mauvaise surprise d'ouvrir mon dernier sac de nourriture et il était rempli d'eau de mer. Donc voilà, j'ai tout vidé, j'ai jeté pas mal de trucs qui avaient pris la flotte et puis là, je fais sécher ce qui était un peu protégé en sachet.
Je voulais partager un moment extrêmement solennel avec vous, un moment même peut-être grave, un moment marquant en tout cas pour moi, mais c'est l'heure de mon dernier pamplemousse. C'est le dernier. Ah, rien que l'odeur, j'en peux plus. Je peux vous dire que celui-ci, je vais le déguster.
J'ai découvert quelque chose ce matin que j'avais oublié que j'ai à boire. C'est la pâte à tartiner. C'est le bonheur. C'est une des choses qui va bien quand tu fais froid. La pâte à tartiner gelée, c'est super. Et je pense qu'il y a des calories pour tenir chaud dedans.
Sébastien, d'ailleurs, c'est avec Samantha que tu as partagé tes premiers moments à terre dont on parlait tout à l'heure, puisque elle aussi, elle a quitté la course en Afrique du Sud au même moment que toi. Puisqu'on parle de repas, là, on imagine que tous les marins là, qui arrivent dans quelques jours et commencent à penser à leur premier repas à terre. C'était quoi, toi, ton premier repas de retour à terre?
C'était de la viande et des frites, comme Sam, d'ailleurs.
Ouais, c'était ça, un grand classique.
Comme d'hab, quoi. Voilà.
Avec les fameuses bières dont vous parliez.
Je sais plus, oui, effectivement. Ouais, et Sam est pas fâché sur la bière, en tout cas, voilà.
C'est une anglaise.
C'est une anglaise, exactement.
Et puis je vous avais promis qu'on n'oubliait pas ce qui se passait un peu plus en arrière de la flotte. On a entendu ces extraits, je voulais aussi vous donner des nouvelles des deux derniers abandons. Isabelle Joschke est désormais en approche de Salvador de Bahia au Brésil. Elle aura mis quasiment 15 jours à rentrer. Sébastien Destremau, lui, est bien arrivé à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Sébastien Destremau, il était quand même à l'isolement, hein, puisque c'est quand même le concept du Vendée Globe, hein, d'être isolé sur son bateau pendant 70 jours. Et les autorités néo-zélandaises, qui ont été... il faut le signaler, parmi les plus strictes et les plus efficaces dans la gestion de la pandémie, eh bien, elles l'ont obligé quand même à une quarantaine sur son bateau en attendant les résultats de son test PCR. Évidemment, il était négatif et il a pu retrouver la terre depuis. Et enfin, au coin infirmerie, il y a eu un bobo pour Pip Air cette semaine qui s'est fait piquer par une galère portugaise. C'est le nom d'un animal marin, hein. C'est une espèce de méduse améliorée, bleue ou violet fluo, une brûlure en haut du dos pour la Britannique qui décidément cumule les petits pépins là depuis un mois. Et puis côté Romain Attanasio, grosse douleur aux côtes, toujours, hein, ça fait quelques temps désormais. On a vu ça sur une vidéo cette semaine, il a du mal à mouliner des deux bras à sa colonne de winch. Encore une grosse dizaine de jours à tenir pour lui. On est dans la dernière ligne droite de ce podcast, exactement comme dans la dernière ligne droite de ce Vendée Globe. Donc vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Je vais vous demander vos pronostics, messieurs, pour les jours à venir. Vous avez encore quelques secondes pour mettre vos idées en place, le temps qu'on écoute les prédictions de la semaine dernière sur l'avant de la course. C'était avec Baptiste Roinette et Licona Lundven.
On va se mouiller un peu, je dirais Boris Herrmann, Louis Burton, Charlie Dalin.
J'ai envie de mettre une petite pièce sur Louis Burton et Boris Herrmann.
Boris, Louis, qui sera en tête la semaine prochaine.
Bah allez, je vais dire Louis. Comme ça, je vais pas dire comme Baptiste.
Oh Bon, alors le trio de tête, il l'avait. En même temps, on l'a dit, ça n'a pas beaucoup bougé cette semaine. En revanche, ni Boris Herrmann ni Louis Burton n'a réellement pris le leadership. C'est bien Charlie Dalin qui a toujours les commandes officiellement. Ils avaient aussi pris quelques options supplémentaires. Nicolas avait mis une pièce sur Le Cam, Baptiste sur Pédoté. Ça n'a pas payé non plus. On va de nouveau décréter un match nul entre tous les deux. Alors, ça m'étonnerait qu'il y ait un match nul la semaine prochaine entre vous, Seb et Paul, puisque, évidemment, là, je vais vous demander vos prédictions sur les classements finaux de ce Vendée Globe. On est à quelques jours désormais du dénouement. Alors, quel scénario vous voyez pour la fin de course? Qui va couper la ligne en premier? Quand? Quel podium? Avant, après les bonifications? À vous de me dire, là, ce qui va se passer dans cette incroyable journée de mercredi.
Vas-y, Paul, Seb, surprends-moi.
Paul va commencer, visiblement.
Allez, bah j'ai peur de ne pas vous surprendre, hein, mais même avec les bonifications, moi je vois bien Charlie Dalin en vainqueur, suivi de Louis Burton et Boris Herrmann.
Donc ça, c'est après bonification, on est d'accord?
Après bonification, oui.
Okay. Ah, tu te mouilles pas beaucoup, Paul, quand même.
Non, c'est pas terrible. Hein.
Bon, alors du coup, on va aller te chercher sur un timing. À quelle heure va passer la ligne Charlie Dalin mercredi? Enfin, j'imagine mercredi, hein, mais tu peux dire mardi ou samedi si tu veux.
Aucune idée.
Je te laisse un peu de temps, on va se tourner vers Seb et je reviendrai vers toi. Seb, comment tu vois cette fin de course?
Alors moi je dis Charlie en tête, Boris deuxième, Louis Burton troisième. Voilà.
Ça, c'est aussi après bonification, on est d'accord?
Hein. Après bonification, oui.
Donc vous voyez tous les deux Charlie Dalin vainqueur du Vendée Globe dans 4 jours. Et même question, à quel moment Charlie va couper la ligne?
En voile, en général, on sait quand on part, on sait pas quand on arrive, mais c'est souvent en retard. Donc, et c'est souvent la nuit pour bien faire, donc je dirais plutôt le soir, moi, pas le matin.
Donc mercredi soir?
Ouais.
Allez, je vais être obligé de vous demander un horaire, parce que vous avez donné le même vainqueur, il faudra vous départager la semaine prochaine.
Allez, 21h30.
Ok, Paul?
Allez, moi je vise plutôt le journal de 13h.
Ok, donc le plus près de cet horaire final la semaine prochaine aura rien gagné, hein, je vous le précise, mais aura gagné.
C'est bien parce que le journal de 13h, ça permet 2 grandes prises de parole.
Et là, on voit l'aspect communication, c'est l'aspect communication qui parle. Bon, en tout cas, c'est dans la boîte, messieurs, une dernière fois avant le retour au sable d'Olonne. On vérifiera tous ces pronostics finaux la semaine prochaine dans l'épisode 12. Évidemment, ce sera un épisode spécial aussi, vous vous en doutez. Un grand merci à tous les deux, Sébastien, Paul, d'avoir intégré le club VG20.
Merci.
Merci à toi.
Salut.
Et au plaisir de vous croiser dans les prochains jours et les prochaines semaines au sable. On a bien conscience de la chance qu'on aura, nous, médias, et Sébastien également, de pouvoir vivre ces arrivées sur site. Mais comme à l'occasion des 3 semaines de Village Départ, Cap VG20 sera là pour vous faire vivre tout ça. Et pas seulement cette semaine d'ailleurs, mais aussi les suivantes. Rendez-vous évidemment sur Twitter, ça ne change pas, le suivi de la course le jour et la nuit s'il le faudra. Sans oublier le podcast dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité. Et petite annonce au passage, on se retrouvera aussi sur TV Vendée mercredi pour vivre en direct les arrivées que j'aurai la chance de commenter avec Aurélien Huard et toutes les équipes. On sait que le dispositif de TV Vendée vous avait beaucoup plu au départ et on tâchera de faire aussi bien à l'arrivée. A très vite.